VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Lydia Noalchot, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Au Congo-Brazzaville, retour progressif à la normale dans la capitale après les affrontements entre forces de sécurité et partisans de l'opposition qui protestent contre le référendum constitutionnel de dimanche pouvant permettre au président Denis Sassou Nguesso de se représenter en 2016. Selon Parfait Kolelas, leader du MCDDI d'opposition, des représentants de l'opposition et de la société civile s'entretiennent aujourd'hui avec des émissaires des États-Unis et de l'Union européenne au sujet de la crise dans le pays. Pour sa part, Christian Mounzeo, patron de la rencontre pour la paix et les droits de l'homme dans la société civile, appelle à la protection de la population.
On est dans un état de droit, on ne peut pas se permettre aujourd'hui que des personnes, le frère et tout, soient inquiétées, tuées, traquées pour certaines aujourd'hui parce qu'il y a des raisons politiques à cela. C'est pour ça que nous en appelons à l'intervention du président de la République, qui est le garant de la paix dans le pays et qu'il constate qu'il y a un problème et il n'y a que lui qui peut sortir le pays de cette situation. Et nous appelons les partis politiques à s'asseoir, à discuter et surtout à faire en sorte que les populations soient protégées, que les populations aient la vie sauve.
Christian Mounzeo de la société civile. Lutte contre Boko Haram au Tchad. Après les arrestations de femmes portant la burqa interdite, ce sont maintenant les propriétaires de véhicules à vitres teintées ou fumées qui sont ciblés par les autorités dans le cadre des mesures de sécurité. Le point avec notre correspondant à N'Djamena, André Kodmajingar.
Interdiction formelle de circulation de véhicules à vitres teintées ou fumées sur l'ensemble du territoire national. C'est une ancienne mesure réactualisée dans le cadre de la lutte contre l'infiltration des éléments du groupe d'État islamique de l'Afrique de l'Ouest ex-Boko Haram sur le territoire tchadien. Une commission est mise en place et présidée par le directeur général de la police nationale chargée de l'exécution immédiate de cette décision. Ahmad Mohamed Bachir, ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, est dur.
Il y a des petits voyous qui narguent l'État, mais on va les narguer et on va les trouver sur notre chemin. On appliquera toute la loi sur eux. Je ne veux pas entendre parler de vitres originales. On va casser.
Aussitôt dit, aussitôt fait. Environ 300 véhicules à vitres teintées ou fumées sont arrêtés dans la ville de N'Djamena en moins d'une semaine par la dite commission. Tout propriétaire doit payer une amende de 5 000 francs CFA avant de retirer son véhicule avec un engagement ferme de remplacer les vitres dans un meilleur délai. André Kodumadjingar, N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
Au Cameroun, les habitants des zones inondables de Douala, dont les maisons ont été détruites en juillet dernier dans les opérations de drainage, se débrouillent comme ils peuvent en attendant l'assistance des autorités. Les précisions de notre correspondante dans la capitale économique camerounaise, Idé Sandrine Yamga.
Assis sur un tabouret dans ce qui tient lieu de salon, Maman Marie s'affaire à décortiquer des graines de courge. Juste à côté, sa fille d'une quarantaine d'années se souvient de ce qui peut être considéré comme les belles années, celles durant lesquelles son domicile était un lieu tranquille.
Sans les inondations, tu entrais dans ma maison, tu disais que voilà une femme. Mais je n'ai plus rien. Tout est parti avec l'eau. L'eau a amené tout.
Leur bâtisse, construite sur un drain, a été, comme des dizaines d'autres maisons, détruite par les engins de la communauté urbaine de Douala, au quartier Makepe-Misoke, dans le 5e arrondissement de Douala, à la suite des graves inondations qui avaient été enregistrées en juin dernier. C'est dans un pan du domicile qui n'a pas été touché par l'engin dévastateur que la petite famille vit au quotidien avec les intempéries que cela comporte.
Tous les jours, elle entre. Il n'y a pas un jour que ça n'entre pas. Dès qu'il pleut, l'eau commence là-bas, ça vient, ça monte ici, ça inonde. Nous restons parce que on n'y peut rien. Nous n'avons pas où aller. On supporte à enlever l'eau et on attend.
Non loin de là, Régine, commerçante, est aussi une victime des casses. Depuis lors, sa vie n'a plus le même sens.
Moi, je suis une Nangaboko. Je suis devenue une Nangaboko parce qu'on a cassé la maison. En attendant qu'on fasse ce qu'on a demandé, qu'on fasse ce qu'on a dit. Bon, actuellement, je ne suis pas chez moi, je ne suis pas dans ma famille, comme je restais avant. Je suis dehors comme ça, là.
Obligés de se débrouiller comme ils peuvent pour faire la cuisine, la lessive, la vaisselle, les habitants du lieu d'Ima Kepemisoke à Douala s'indignent surtout de ce que les travaux de drainage et de curage annoncés par les autorités après l'étape des casses n'ont toujours pas démarré.
Ils ont dit qu'ils vont drainer, les cours d'eau. Et pour le moment, nous sommes encore curieux. On attend voir si réellement ça sera vraiment effectif.
4 mois après les casses qui ont suivi les inondations, la vie a repris son cours normal pour ceux qui ont choisi de rester sur les sites. Les autorités administratives avaient évoqué un plan d'assainissement des zones à risque dans la capitale économique du Cameroun, chiffré à hauteur de 100 millions de francs CFA. Depuis lors, rien de concret. Ide Sandrine Yamga, Douala, Voix de l'Amérique, Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En Côte d'Ivoire, les électeurs se rendent aux urnes le 25 octobre pour élire leur prochain chef d'État. 7 candidats affrontent le président sortant Alassane Ouattara, donné grand favori, vu que l'opposition est divisée. Le point avec notre envoyé spécial à Abidjan, Tatiana Mosso.
La campagne électorale entre dans sa dernière ligne droite. Vendredi soir, les grands candidats organiseront leur dernier meeting. En attendant, la capitale ivoirienne et certaines villes de province sont le théâtre de meetings politiques, mais sans égal à la frénésie de la campagne présidentielle de 2010. Aucun incident majeur n'a été noté. Cependant, le faible engouement des électeurs pour retirer leur carte continue d'alimenter les pronostics sur le taux de participation au scrutin. Une participation qui s'annonce plutôt faible. Il y a 5 ans, lors du premier tour de l'élection, le taux de participation s'élevait à plus de 80%. Dans l'idée de convaincre les derniers citoyens indécis de se rendre aux urnes, la CEI, la Commission électorale indépendante, continue à travers les médias nationaux de sensibiliser la population ivoirienne pour qu'elle se déplace massivement le jour du scrutin, dimanche 25 octobre. Tatiana Mosso, à Abidjan, pour VOA Afrique.
Soudan, le gouvernement soudanais a annoncé hier mercredi avoir accepté une invitation de l'Union africaine à participer à des négociations de paix avec les rebelles du mouvement de libération du Soudan, le SPLMN, à Addis Abeba le mois prochain. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
Cette invitation intervient au moment où le Soudan redouble d'efforts pour convaincre le SPLMN et les rebelles dans la région du Darfour de participer à un dialogue national destiné à résoudre les problèmes économiques et insurrectionnels qui minent le pays. De précédentes négociations organisées l'année dernière n'avaient pas donné de résultats. Le SPLMN combat depuis 2011 les forces de Khartoum dans les états du Kordofan Sud et du Nil Bleu, frontalier du Soudan du Sud. Le mouvement n'a pas indiqué s'il comptait participer aux discussions. Au pouvoir depuis un coup d'État en 1989 et recherché depuis 2009 par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et génocide au Darfour, dans l'ouest du pays, le président soudanais Omar El-Béchir a lancé le 10 octobre un processus de dialogue national. Le Darfour est miné depuis 2003 par des violences entre le gouvernement et des insurgés qui se sentent ethniquement marginalisés par le régime de Khartoum. Le conflit a fait plus de 300 000 morts et déplacé 2,5 millions de personnes selon l'ONU.
États-Unis, la principale candidate à l'investiture du Parti démocrate pour la présidentielle de 2016. L'ex-secrétaire d'État Hillary Clinton est attendue aujourd'hui devant une commission spéciale de la Chambre des représentants à Washington. Elle doit répondre aux questions des députés sur l'attaque terroriste de 2012 à Benghazi, en Libye, où 4 Américains ont trouvé la mort, chez Rubin Dorsil.
Ce rendez-vous pourrait avoir un impact considérable sur la campagne de l'ancienne secrétaire d'État et ancienne première dame des États-Unis. Les républicains ne lui feront pas de cadeau, mais elle peut compter sur l'appui des démocrates membres de la commission. L'un de leurs arguments, soulevé maintes fois d'ailleurs cette semaine dans la presse, la politisation de l'enquête et la partialité de la majorité. Le leader de la majorité à la Chambre, Kevin McCarthy, déclare dans cette pub « Tout le monde croyait Hillary Clinton imbattable. Pourtant, nous avons formé une commission spéciale sur Benghazi. Et quelle est sa position actuelle dans les sondages ?» Pareille affirmation renforce l'argument de Mme Clinton et des démocrates accusant la commission de partialité. Lors du récent débat des candidats démocrates, Mme Clinton a martelé « Cette commission n'est pratiquement qu'une extension du Comité national républicain. C'est un outil de partisanerie, comme l'a admis le leader de la majorité, ayant pour but de faire baisser ma cote de popularité. » Ainsi, si les projecteurs vont être braqués ce jeudi sur Hillary Clinton, patronne du département d'État lors de l'attaque de Benghazi, ses détracteurs seront aussi, dans une certaine mesure, en examen devant l'opinion publique.
Et pour terminer, la lutte contre le groupe État islamique, augmentation de 42% des attaques quotidiennes attribuées aux djihadistes du groupe dans le monde pendant le troisième trimestre de 2015. C'est ce qu'affirme la revue spécialisée dans la défense, Jane's. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.